Voilà, heureux de se retrouver dans ce lieu et par la vidéo de vous associer à cette joie, mes bien-aimés. Chacun, bien sûr, aspire à des temps meilleurs pour pouvoir nous retrouver ensemble dans ce lieu, dans cette belle salle où la présence du Seigneur est invoquée, où nous pouvons le louer, l'adorer et écouter ensemble sa parole, mais aussi communier ensemble. L'Ancien Testament relate des faits historiques sur le peuple d'Israël dans lesquels Dieu parle de différentes manières et en particulier par des prophètes, tantôt avec une parole d'amour, tantôt avec une parole qui redresse, une parole d'exhortation. Ces paroles qui sont adressées à Israël sont pour nous des instructions, pour nous chrétiens et églises d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans l'Ancien Testament qu'elles ont perdu de leur valeur et de leur puissance. Elles restent la pensée de Dieu. Toutefois, il faut être attentif pour ne pas mélanger des paroles qui s'adressent pour le plan de Dieu en faveur d'Israël et le plan de Dieu pour l'Église. Et aujourd'hui, de plus en plus, de telles confusions engendre malheureusement des enseignements erronés. Rappelons que le Nouveau Testament contient aussi des paroles pour le peuple d'Israël, mais surtout, il contient des paroles pour les chrétiens et l'Église. L'Église composée de vrais croyants, de ceux qui sont nés de nouveau, de toute nation, à la fois juifs et non-juifs. Et voici d'ailleurs comment Paul présente cet Ancien Testament. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, et nous le lisons, « Frères et sœurs, bien sûr, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été. » Et voilà que Paul relate quelques faits historiques dont il donne quelques exhortations. Ne devenez pas comme eux des idolâtres. Ne vous livrez pas à l'impudicité comme eux. Ne tentez pas le Seigneur comme eux. Ne murmurez point comme eux. Et la conclusion qu'il en donne, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 11, nous lisons « Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin du siècle. » Je vous propose donc d'ouvrir l'Ancien Testament dans un livre peu connu. Mais avant cela, puisque ce sont des paroles de Dieu qui peuvent nous concerner, nous servir d'instruction, je vous propose de prier face à cette parole. Seigneur notre Dieu, ta parole, elle est la vérité. Elle contient des pensées qui nous dépassent. Et nous voulons, Seigneur, te demander que nous donne cette sagesse, cette intelligence pour discerner au travers de cette parole de quelle manière tu parles à nos cœurs encore aujourd'hui. Instruis-nous par cette parole. Exhorte-nous, mais aussi encourage-nous. Fais-nous découvrir que tu restes un Dieu d'amour, bienveillant, constamment les mains tendues vers nous. Seigneur, fais-nous du bien et que cette parole devienne à nouveau cette nourriture dont notre âme a tant besoin. Reçois, Seigneur, notre prière pour la seule gloire de ton nom. Amen. Le livre que nous allons ouvrir, peu connu dans l'Ancien Testament, c'est le quatrième avant la fin de l'Ancien Testament. Donc, si je commence à l'envers, Malachie, Zacharie, Agée, et nous arrivons à Sophonie. Quelle instruction tirée de ce livre de Sophonie qui s'adresse au peuple d'Israël? Quelle instruction pouvons-nous retirer pour nous, Église du XXIe siècle. Très brièvement, prenons connaissance de la période dans laquelle le prophète Sophonie a vécu pour comprendre le sens de cette parole dont il a été porteur et découvrir la similitude qu'il y a entre notre temps et ainsi découvrir les instructions qui nous intéressent. Si j'ouvre dans le livre de Sophonie, au chapitre 1er, nous lisons ceci, et je l'ai pris dans la version en français courant. Parole que le Seigneur a communiquée à Sophonie. Ce n'est donc pas une parole que Sophonie a lui-même dite au peuple d'Israël. Non, c'est l'Éternel qui prend autorité, qui insuffle sa parole dans les pensées de Sophonie, et Sophonie n'est que le porte-parole de l'Éternel. Parole que l'Éternel, que le Seigneur a communiquée à Sophonie, à l'époque où Josias, fils d'Amon, était roi de Juda. Sophonie, nous continuons la lecture de ce verset premier, Sophonie était fils de Cushi, lui-même fils de Gudélia, petit-fils d'Amaria et arrière-petit-fils d'Ézéchias. Ce premier verset mentionne quelques générations pour souligner la lignée royale de Sophonie, son arrière-grand-père, Ézéchias. Et au moment où Dieu l'appelle, c'est le jeune roi Josias qui est sur le trône. Ézéchias et Josias sont deux rois qui ont marché dans la justice de Dieu. Mais entre ces deux rois, il y a deux règnes qui sont néfastes et qui sont mentionnés dans ce premier verset. Il s'agit de Manassé et de Hamon, qui ont encouragé le peuple à se livrer à des pratiques idolâtres. Et au moment de Sophonie, c'est le jeune roi Josias qui entreprend de remettre de l'ordre, c'est-à-dire de faire disparaître les idoles et de réparer le temple qui avait été fermé. Et en ouvrant ce temple, il y a une découverte merveilleuse. Ils y redécouvrent la loi de Dieu, la loi de l'Éternel donnée par Moïse, qui était tombée malheureusement dans l'oubli. C'est dans cette période que Sophonie est appelée par Dieu pour proclamer deux facettes de Dieu, à la fois sa sainteté et son amour, c'est-à-dire sa justice et sa grâce, et aussi proclamer pour le peuple d'Israël à la fois une période de tribulation qui sera suivie d'un temps de bénédiction. Cette période de tribulation qui est répétée régulièrement au travers de ce livre, à sept reprises, nous découvrons les mots de « jour de l'Éternel » et le jour de l'ardente colère de Dieu. Nous allons lire le dernier chapitre de ce livre de Sophonie pour découvrir que Dieu est lent à la colère, que Dieu est riche en bonté, que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est patient, mais que sa patience a des limites. Au temps de Sophonie, les idoles qui étaient adorées s'appelaient Baal, Moloch. Aujourd'hui, les idoles portent d'autres noms. Mammon, le culte de la personnalité, le culte de l'apparence, de la beauté physique, le culte du moi, avec son pouvoir excessif, et l'injustice sociale. En résumé, l'homme aujourd'hui se prend pour Dieu en se détournant du Dieu vivant et vrai. Et c'est dans ce monde que nous sommes invités à témoigner ces deux facettes et proclamer sans ombrage que celui qui a la vie, selon l'évangile de Jean chapitre 3 verset 36, celui qui a la vie, celui qui a le Fils, pardon, a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et l'apôtre Paul, écrivant dans Actes chapitre 17, nous dit ceci, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire l'homme Christ Jésus, et l'a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Ouvrons donc Sophonie au chapitre 3, et pour découvrir dans quelle situation se trouve le peuple d'alors, nous en avons déjà mentionné dans son idolâtrie, mais combien Dieu est lent à la colère. Je lis les quelques premiers versets de Sophonie chapitre 3 pour nous rendre compte de l'état spirituel de ce peuple. Malheur à la ville rebelle, souillée, qui est pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute pas ma voix, dit l'Éternel. Elle ne reçoit pas cette parole, ni l'instruction. Elle ne met plus sa confiance en l'Éternel, en moi. Elle ne s'approche plus de moi, de son Dieu. Regardez ses chefs au milieu d'elle. Ils sont comme des lions rugissants. Ses juges sont des loups. Ils ne laissent rien pour le peuple matin. Ses prophètes, ce sont des vantards, des hommes perfides. Ses sacrificateurs profanent le lieu saint. Ils font violence à ma parole. Bien-aimés, quand nous lisons de tels propos, qu'est-ce que Dieu peut encore attendre d'un tel peuple? A-t-il encore pour lui un avenir? Comment est le cœur de Dieu face à ce peuple, à ses actions? Sa main s'est-elle retirée ou est-elle toujours tendue avec amour pour quiconque vient vers lui dans la repentance? Le projet que Dieu a pour le peuple est-il maintenant disparu? Et nous allons au verset 17 de ce chapitre 3 et découvrir quelles sont les intentions de Dieu pour ce peuple. Verset 17. L'Éternel, ton Dieu, c'est Dieu qui parle par la bouche de Sophonie à ce peuple d'Israël qui est dans un pitoyable état. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. C'est au futur. C'est pour une période. C'est dans l'attente que ce peuple vienne vers lui. Et si nous avions le temps de retracer l'histoire, nous savons qu'après ce temps de tribulation, de grande tribulation, le peuple sera source de bénédiction. Dieu reprendra relation vivante avec son peuple. Et c'est en vue de ce temps que l'Éternel dit « Je serai au milieu de toi comme un héros qui sauve ». L'Éternel fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ces promesses qui sont adressées à ce peuple méritent, un peuple qui mérite le jugement de Dieu, mais Dieu qui désire faire grâce. Alors ces paroles peuvent-elles être, avoir écho dans nos cœurs, nous, enfants de Dieu du 21e siècle, nous, Église de Jésus-Christ? Peuvent-elles encore me parler et me faire découvrir toute la richesse de l'amour de Dieu et de son projet qu'il a pour moi, enfant de Dieu, et pour l'Église d'aujourd'hui? Analysons succinctement ces quatre phrases. Premièrement, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Il est dans ta vie. Il est dans ton histoire, à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan communautaire. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, dit Jésus, moi, je suis au milieu d'eux. Sur le plan individuel, dites-moi, qu'est-ce que je serais, que serions-nous si le Saint-Esprit de Christ n'habitait pas en moi? Je serais un homme, une femme, habitant la terre, étranger à la promesse que nous venions de lire de Dieu, étranger au projet de Dieu, un projet de paix éternelle et non pas un projet que le monde propose qui est un projet voué au malheur. Je n'aurai pas d'espérance parce que seul Christ qui habite en nous est l'espérance de la gloire. Aucune consolation. Sans Christ, je suis perdu et voué à la colère de Dieu. Si Christ n'est pas dans ma vie, la colère de Dieu demeure sur moi. Sur le plan communautaire, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Nous parlons bien sûr par la foi, en espérant que bientôt nous pourrons nous retrouver ensemble et jouir de cette communion fraternelle et jouir de la présence du Seigneur. Mais bien-aimés, que serait le rassemblement des croyants sur la terre? Que seraient les églises locales si Jésus-Christ n'était pas présent par son esprit au milieu de ce rassemblement? Un tel rassemblement serait-il appelé église? Si Jésus-Christ, comme à l'église de Laodicée, rapporté dans l'Apocalypse, Jésus-Christ serait à l'extérieur en train de frapper, de supplier de rentrer. Une église dans l'autosuffisance qui n'a pas besoin de son Seigneur. Bien-aimés, ce ne sont pas les murs qu'on appelle église, mais ce sont les enfants de Dieu qui sont rassemblés autour du Seigneur Jésus, à son nom et pour son nom. Et quand l'église locale est rassemblée, elle doit être la figure du rassemblement final qui sera révélé dans la maison du Père lorsque l'Église sera enlevée, ravie par le Seigneur Jésus dans la maison du Père. Là, l'Église sera au complet. Là, ce sera la perfection. Tous les enfants de Dieu, passés, présents et à venir, seront tous autour du Seigneur. Mais en attendant ce jour, nous sommes invités à refléter que Jésus est au milieu de nous. Qu'est-ce qui fait la différence entre le club de football, le club de basket, le club de n'importe quel nom que l'on peut retrouver ci et là sur cette terre et le rassemblement des croyants? C'est la présence de Jésus en son sein. Alors, si Jésus n'est pas présent, à qui s'adressent nos prières? À qui s'élèvent nos chants? De qui écouterions-nous la parole? Certainement pas venant du Père, ni adressée au Père, car seul Jésus nous conduit au Père. Alors, permettez-moi de vous dire, on perd notre temps. On n'a plus rien à faire ici. Mais je crois que notre désir n'est pas celui-là. Le désir est de vivre la présence du Seigneur Jésus. premier texte. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Quelle bénédiction! Mais il nous a dit, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Quelqu'un qui est fort, qui assure la victoire. Imaginons un peu une troupe de soldats, une garnison qui lutte pour défendre la ville contre l'ennemi. On résiste un certain temps. Et alors que tout devient difficile, voire impossible, tout devient sombre, tout semble perdu à vue humaine, la troupe est désespérée, la bataille semble terminée, elle n'est plus gagnée, c'est la mort qui nous attend, qui attend cette troupe. Voilà que du milieu de cette troupe, puisqu'il nous a dit que l'Éternel est au milieu de toi, du milieu de cette troupe, du milieu de l'assemblée, des rachetés du Seigneur, un héros se lève. Et la ville qui était assiégée, qui était prisonnière de l'ennemi, devient libre. Le héros sonne la victoire, sonne la délivrance. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu, dit Paul, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous rassemblons autour du Seigneur Jésus, nous sommes autour de celui qui est le grand vainqueur. Il se tient au milieu de son peuple qui est attaché à son nom et qui désire le proclamer. Et il se manifeste non plus en juge pour le condamner, mais comme le héros puissant qui sauve. Notre condamnation, elle a été clouée à la croix du calvaire par Jésus-Christ. Il en est sorti vainqueur, triomphant du péché, de la mort et de l'ennemi et du monde. Le pouvoir du péché est maintenant vaincu. Jésus, au milieu de l'Église réunie à son nom, est le grand vainqueur. Et nous entendons sa voix qui nous redit, « J'ai été mort, mais voilà maintenant, je suis vivant au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » L'Éternel est au milieu de nous quand nous sommes rassemblés. Il est le héros qui sauve. Troisième phrase. Il fera, c'est au pluriel, et nous souhaitons que cela devienne un aujourd'hui. Il fera de toi sa plus grande joie. Qui peut dire aujourd'hui, en regardant l'état de l'Église, que Jésus-Christ est au milieu d'elle, le grand héros, et qu'il y trouve sa plus grande joie. L'Église que Jésus-Christ, il l'aime, il l'a aimée, il s'est sacrifié pour elle, et il l'aime toujours. Il la chérit, il la purifie par sa parole. C'est vrai qu'elle est méprisée dans ce monde, mais elle est précieuse à ses yeux. Il désire la rendre parfaite, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Elle est pleine de défauts, il est vrai, mais elle reste précieuse à ses yeux. Et si, à l'égard du peuple d'Israël, l'Éternel dit de ce peuple qu'il est la prunelle de son œil, je pense ne pas me tromper en disant que l'Église est la prunelle de l'œil du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes fiancés et bientôt amenés aux noces pour être l'épouse de Christ, revêtue de cette robe de fin lin. Écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, qui nous invite à avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. En vue de la joie dont nous venons de lire dans le prophète Zophonie et qui est celle du Seigneur Jésus, lorsqu'il sera là au milieu de l'Église dans le ciel. Et mon désir, c'est qu'il trouve sa joie quand nous sommes rassemblés autour de lui. Cette même pensée se retrouve dans Ésaïe chapitre 53. Écoutez au verset 10 et 11 ce qu'il est dit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il pourra dire à son Père, dans la joie parfaite, « Père, ils étaient à toi. Maintenant tu me les as donnés. Je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. » Trop souvent, bien-aimés, quand nous venons dans la présence du Seigneur ensemble, nous recherchons notre propre satisfaction, nous recherchons notre propre joie, nous recherchons quelque chose qui va nous satisfaire. Pouvons-nous, un instant, quand nous venons devant notre Dieu, pour être autour de lui, pour l'adorer, pour l'écouter, pouvons-nous rechercher sa joie à lui? Elle sera parfaite dans le ciel, mais sur la terre, pouvons-nous avoir ce désir de rechercher sa joie à lui? Puis-je dire, Église de Glun, Église, si elle est là, sur cette terre, puis, est-ce que le Seigneur, en regardant chaque église, peut dire, « Tu sais, tu fais ma joie. » Et la dernière phrase, c'est de dire, « L'Éternel gardera le silence dans son amour. Il se reposera dans son amour, il va se taire. » Aujourd'hui, le silence est quelque chose qui est désarmant. Faire une minute de silence, à certaines occasions, c'est pesant. On ne sait plus faire silence. On ne supporte plus. Il faut que nos oreilles soient constamment dans une certaine ambiance sonore, que nos yeux soient constamment dans le zapping. C'est pesant quand on est dans le silence, surtout quand on attend du secours, on aspire que ça aille vite. Mais pour Dieu, il garde le silence. Et quand, bien-aimé, je réfléchis à ce silence de Dieu, que me dit-il? Parfois, nous trouvons l'expression « Ah, je me tais plutôt que de mal parler. » Quand Dieu garde le silence, n'est-ce pas pour me faire pour me rappeler, pour souligner à mon cœur qu'il a oublié mes péchés, qu'il les a jetés derrière lui, que jamais il ne va replacer devant nous les péchés que nous lui avons confessés, nos faux pas, et que dans ce silence, il me parle à mon cœur qu'il est amour pour moi, qu'il est pardon. Le silence ne veut pas dire absence, mais le silence, dans ce cas, veut dire amour. Quand je serai dans le ciel, ce sera parfait. Et dans ce silence, le Seigneur me montrera les marques dans ses mains, les marques dans ses pieds. Il me montrera sans doute la marque de la lance. Peut-être y aura-t-il encore sur sa tête la marque de ses épines. Peut-être verrai-je les marques sur son dos de ces larges et profonds sillons que les hommes ont tracés en le flagellant. Et dans le silence, avec un regard croisé entre lui et moi, et chacun de nous, dans le silence qu'il aura, il me dira muettement, « Vois jusqu'où je t'ai aimé, au point d'oublier ton péché. » Les vœux de mon cœur, c'est qu'en soulignant ce texte de Sophonie, nous puissions reconsidérer que notre Dieu est plein d'amour, plein de miséricorde. J'avais ici à la pensée un vieux cantique. Je voudrais simplement le lire en terminant. Voilà, c'est un cantique qui me revient. Voilà, sans doute que l'âge fait son effet. À la fois, j'aime les nouveaux cantiques, mais les anciens que ma grand-mère m'a appris dans ma jeunesse refont souvent surface aujourd'hui. Et voilà un de ces vieux cantiques qui nous dit ceci. Nos yeux contempleront sur ta face adorable, du Sauveur de l'époux la suprême beauté. Et nous pourrons sonder alors dans la gloire le mystère insondable de ta grâce sans borne et de ta charité. Et la quatrième strophe dit ceci, « Toi-même, Seigneur, tu verras ce que ton cœur réclame. De ton œuvre à la croix, le fruit mûr et parfait. Tu jouiras, Seigneur, du travail de ton âme et ton amour divin en sera satisfait. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera, il doit faire la joie, sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il se reposera, il se taira et il se réjouira avec cri de triomphe. » Seigneur, devant cette parole qui nous touche au plus profond de nos cœurs, nous découvrons combien tu es un Dieu qui est patient, un Dieu qui est plein de bonté, un Dieu qui a un projet merveilleux. Malgré nos faux pas, tu nous tends constamment la main pour que nous revenions à toi. Et nous te bénissons pour le cœur qui est le tien, dont nous ne savons pas le décrire, tellement il est vaste. Mais nous prenons conscience que ta patience a un terme. Parce que si tu es amour, tu es aussi sainteté. Et nous savons, Seigneur, qu'en dehors de ta présence, pour dans le ciel, pour toute l'éternité, il y a des jours mauvais qui seront abattus sur cette terre. Alors nous te prions, Seigneur, puisqu'aujourd'hui est encore un jour de grâce où tu tends la main, nous t'en supplions, fais ton œuvre dans les cœurs et que la joie de ton ciel, pour une âme qui vient à la repentance auprès du Seigneur Jésus et le reçoit comme sauveur, que ce beau ciel, par les anges, se réjouisse. Et que, Seigneur, chacun de nous, tu puisses nous redire, tu fais la joie de mon cœur. Que quand nous aurons l'occasion de nous retrouver, que chaque rassemblement puisse faire la joie de ton cœur en attendant d'être dans le ciel. Seigneur, reçois notre prière et notre adoration à la seule gloire de ton nom. Amen.